RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Ça y est, ils sont dans le dur, dans l'ascension du col du Grand Colombier. Difficulté majeure de cette 15e étape du Tour de France. Nous sommes à 52 km de l'arrivée et le groupe de tête passe à l'instant à 5 km du sommet. Fred, on va faire un point car ce groupe initialement composé de 30 hommes n'en comprend plus 30. Hein. En tous les cas, ils ne sont plus tous ensemble.
Évidemment, la tête de course qui est réduite à 7 unités, 7 coureurs dans l'ascension du Grand Colombier à 5 km du passage au col à 1500 mètres d'altitude, là-haut le plus haut col routier du Jura. Nous sommes dans le massif du Bugey, arrivé à Culoz aujourd'hui. On passe dans 5 km au col, on redescend vers Culoz et on reprend le Grand Colombier par son troisième versant, les Lacets, et là ce sera le tremplin vers la ligne d'arrivée. Les coureurs en tête sont Rafał Majka, le Polonais à la chasse au maillot à poids de meilleur grimpeur, également présent Durasek, le Croate, Serge Powels, le Belge, Ilnur Zakarin, le Russe de la Katyusha, Dani Navarro, l'Espagnol de Cofidis, le Suisse Sébastien Reichenbach pour la formation Cofidis, et un seul Français, Alexis Villermoz. Derrière, Pierre Roland tentait de revenir. Est-ce que Julien Alaphilippe est toujours...
Il est devant
Julien Alaphilippe qui vient de réintégrer ce groupe de tête et qui fait un peu l'élastique, mais qui pour l'instant est surprenant. Julien Alaphilippe, 23 ans, la perle de l'équipe les Ethics Quick Step, qui pour l'instant fait de la résistance. Il découvre ce qu'est un grand tour. Pour la première fois de sa vie, il passe le cap des 2 semaines de course et il s'accroche Julien Alaphilippe, dans son style, à l'énergie. On rappelle que le mieux placé au classement général dans ce groupe de tête, c'est le Suisse Reichenbach, qui était à 11 minutes 40 de Christopher Froome ce matin au classement général. Il reste 4 km 700 d'ascension, 51 km avant l'arrivée, et le peloton maillot jaune est à 8 minutes 35.
Voilà, les Français qui sont là, présents dans ce groupe de tête, en tous les cas pour certains, c'est le cas d'Alaphilippe. Pierre Roland est un petit peu plus loin derrière, il n'a pas réussi à suivre le rythme imposé par les hommes de tête, les Français qu'on espère enfin voir à l'œuvre aujourd'hui, enfin décrocher une première victoire d'étape sur les routes de ce Tour de France 2016. Alors évidemment, on espère une victoire d'étape, on espère aussi que notre ami Romain Bardet pourra montrer de belles choses aujourd'hui. On rappelle qu'il est le Français le mieux classé au général, 7e ce matin. Romain Bardet va-t-il pointer le bout de son nez aujourd'hui? Lionel Chamy, notre confrère du Parisien, nous a rejoint comme tous les jours pour nos débats avec nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Salut Lionel.
Salut à tous.
Alors Romain Bardet 7e au général, c'est un profil qui lui convient aujourd'hui pour essayer de montrer le bout de son nez, hein.
Ouais, absolument. Il a pas caché ses intentions offensives. Il en parle souvent. Voilà, je crois que c'est quelqu'un qui descend bien, qui grimpe bien, qui descend bien. Voilà, il a une véritable opportunité. Après, j'imagine qu'il doit être assez tiraillé entre l'envie de patienter aussi et de laisser circuler les quelques coureurs qui sont devant lui au général et qui sont susceptibles de reculer à partir du début de la semaine prochaine.
Alors devant lui, il y a Froome évidemment, il y a Mollema, il y a Yates, Quintana, Valverde et Van Garderen, et puis juste derrière lui, il y a Richie Porte et Dan Martin, qui sont des coureurs capables comme Fabio Aru de lui passer devant par contre.
Ouais, absolument. Il y a aussi des coureurs susceptibles de lui passer devant. Voilà, c'est peut-être prendre des risques que dans sa position, que de tout donner pour l'offensive. Moi, je serais lui, j'y réfléchirais un peu à deux fois. Même si...
Tu lui conseillerais pas d'attaquer aujourd'hui, de rester pas. Encore mais dans le groupe.
Il y a débat, on est bien d'accord. On entend dans les propos de Lionel que la carte du général, il faut la jouer à fond peut-être. Premier Français du général, lui qui a déjà terminé 9e. À mon avis, c'est le jour idéal pour une attaque de Romain Bardet. Bien sûr qu'il y a de quoi se brûler les ailes, mais on est seulement à 51 km de l'arrivée. Le groupe maillot jaune, pour l'instant, ne bouge pas. Toujours bien emmené par les skies de Christopher Froome. Après la première descente de ce Grand Colombier, il y a une ascension longue de 8 km et très raide avec ses lacets du Grand Colombier. C'est une route étroite, très pentue et un terrain d'attaque parfait pour ce Romain Bardet qui adore se lâcher comme ça, que ce soit vers Praloux l'an passé sur le Dauphiné, que ce soit vers Saint-Jean-de-Maurienne l'an passé sur le Tour de France. C'est un terrain pour lui, le leader français de l'équipe AG2R, la mondiale.
Alors Cyril, directeur sportif de Bernard Hinault, de Laurent Fignon, qui ont gagné le Tour de France, que conseillerais-tu aujourd'hui à Romain Bardet si tu étais toujours son directeur sportif?
Je pense que sur cette ascension actuelle, bon là, il est inutile d'attaquer puisque Il y a encore l'ensemble de l'équipe, ou pratiquement les 6 coureurs de l'équipe Sky. Donc sur la longue descente, tu laisserais beaucoup trop de plumes, et dans la dernière ascension, tu risquerais tout simplement de prendre un bon coup de marche arrière et de tout perdre. Donc s'il doit bouger, il faut qu'il bouge dans les deux derniers kilomètres de la dernière ascension, de façon à faire la descente à fond, et puis d'essayer de reprendre un peu de temps avant l'arrivée. Mais il ne pourra pas y avoir de grands écarts de toute façon. Là, on a une descente qui doit faire presque plus de 15 kilomètres. C'est dur, une descente tout seul. Si... Alors d'accord, vous la faites, c'est bien. Mais derrière, vous rattaquez immédiatement. Vous avez même quelques kilomètres sur le plat. Et quand vous allez rattaquer le dernier col, à mon avis, vous êtes sec.
Donc il ne faut pas attaquer avant la dernière difficulté de la journée. Pour Romain Bardet, c'est des conseils de Cyril Guimard. Jérôme.
Ouais, je suis d'accord avec Cyril, il faut qu'il attende la dernière ascension, les lacets du Grand Colombier. Maintenant, il va falloir aussi penser aux adversaires de Chris Froome d'écrémer ce Transky. Romain n'attaquera pas s'il reste trois équipiers. C'est pas à Romain d'attaquer le premier non plus. Il va falloir qu'il y ait un gros tempo, mais pour le moment ça prend pas la direction de cela, puisque tout simplement derrière on laisse faire l'équipe Sky, et l'équipe Sky avec à sa tête en ce moment encore une fois Kirienka qui n'est pas le meilleur grimpeur. Derrière Kirienka, il reste encore 3 ou 4 équipiers. S'il reste encore 4 équipiers dans les lacets du Grand Colombier pour Chris Froome, il ne va rien se passer aujourd'hui encore une fois.
Non, alors pour moi l'attaque de Romain Bardet est une évidence, parce que, et là Jérôme, Cyril, vous allez peut-être apporter votre pierre à l'édifice, pour moi c'est le jour idéal pour attaquer. Thibaut Pinot est rentré à la maison, Pierre Roland est out au classement général, Warren Barguil également. C'est dimanche, les gens sont sur le bord de la route, il fait beau, on est sur une étape de montagne, il y a beaucoup de monde devant la télé. Est-ce qu'on pense à tout ça?
Mais non.
Pas du tout.
Mais non.
Pas du tout. Pour moi, là où je veux en venir, c'est qu'il y a pour moi une place à prendre dans le cœur du public français.
Et on parle pas pour Romain Bardet d'aller chercher une place dans le cœur des Français. On parle pour accomplir l'objectif qu'on s'est fixé depuis le début de la saison, c'est-à-dire faire un top 5 dans le Tour de France. Donc aujourd'hui, dimanche, papa, maman sur le bord de la route, il fait chaud, il fait beau, il s'encarre le coquillard. Il faut d'abord gérer sa course, gérer son classement, et pour le moment, il gère très bien cela. Il espère, j'espère juste une chose, que du côté de la G2R, je pense pas, et je pense que mon copain Julien Jourdi a très bien regardé le classement comme ça, j'espère qu'on ne compte pas uniquement sur le fait que Evalverde et Van Garderen vont se mettre au service de Richie Porte et de Quintana à un moment donné pour s'écarter et perdre ces places là parce qu'effectivement, si on regarde devant, il y a 2-3 places à aller chercher, mais derrière il y a du monde aussi, en espérant que Romain soit pas attentiste. Mais Romain n'est pas un coureur attentiste. C'est pas parce qu'on est dimanche et qu'on arrive dans une région qui lui plaît qu'il attaquera aujourd'hui, mais il attaquera, ça c'est sûr.
Ça, c'est sûr.
Il l'a dit, il a la condition pour attaquer. Pourquoi pas dès aujourd'hui dans les lacets du Grand Colombier, mais excuse-moi Fred, ça sera pas parce qu'on est dimanche et qu'il y a du monde sur le bord
dans
de la
route. Dans les lacets et dans la descente.
Il est très très bon en descente,
eh
Romain,
oui,
et
la
donc
descente
c'est cette ascension, cette étape, cette ascension du Grand Colombier, et notamment ces lacets du Grand Colombier, sont propices à une offensive de Romain Bardet.
Oui, mais il faut bien se dire une chose, hein, c'est que si Bardet attaquer dans ce col-ci ou dans l'autre, les premiers coureurs à rouler sur lui, ce serait Valverde et Van Garderen. Ça serait même pas.
On joue déjà que pour le classement.
Bien sûr, bien sûr.
C'est-à-dire la deuxième, la troisième, la quatrième et
éventuellement
la
Richie Porte qui irait le chercher.
Ouais, Cyril, je suis d'accord avec toi, mais à ce moment-là, t'attaques jamais. Donc il faut oublier, quoi. Comme on dit, il faut prendre le risque de perdre pour gagner. Et je pense qu'il.
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. À un moment, faut y penser. Mais d'abord, comme tu disais, c'est pas parce qu'il y a papa, maman, l'abonné-moi, sur le bord de la route, que tu vas avoir 20 watts de plus dans les jambes.
Non, ça c'est sûr, c'est sûr.
Donc il faut être dans un grand jour, le jour où tu attaques, et il faut pas te rater.
En tout cas, il a de très très nombreux supporters aujourd'hui sur le bord de la route. J'ai fait l'ascension finale en voiture, et je peux vous dire que c'est Romain qui gagne à l'applaudimètre. Il y a au moins tous les 200 mètres une pancarte allez Romain, maillot à G2R.
On est sur les terres d'AG2R, la mondiale ici, Fred. Hein.
Attaque Bardet, il y en a des banderoles, des fanions à l'effigie de Romain Bardet. voilà où je voulais en venir. Le final de cette étape est parfaitement taillé pour Romain Bardet. Une montée très très abrupte avec des pentes très irrégulières. Il aime ça, les changements de rythme, et il aime ces routes étroites. C'est un gabarit très léger. Il n'est pas forcément fait pour de longs cols réguliers roulant, avec des pentes qui ne dépassent pas les 10%. Là, on est sur du 12, du 14%. Et la descente derrière est très technique. Et effectivement, il y a du monde pour l'encourager et pour le porter. Peut-être que les 20 watts, ils seront là. Ils seront au bord de la route aujourd'hui.
On l'espère, évidemment.
Ce sera le 13e homme.
On l'espère qu'il va nous régaler, Romain Bardet, aujourd'hui sur ses terres et tout au long de la dernière semaine du Tour. Lionel, un petit mot à ajouter? Non, c'est bon, on a tout dit sur Romain Bardet.
Ouais, non, mais moi, je pense que le vrai truc à aller chercher aujourd'hui, c'est une victoire sur le Tour. Ça a pas de prix, et je pense qu'il serait bon pour lui d'aviser en fonction des circonstances au sommet des lacets du Grand Colombier.
Pour la victoire d'étape, c'est râpé, hein, avec 8 minutes 30 d'avance.
On rappelle qu'il y a un groupe de tête à 50 km de l'arrivée maintenant, qui compte 8 minutes 30 d'avance sur le peloton dans lequel figure Romain Bardet, le peloton maillot jaune, et ce ne sont pas des manchots devant, si je puis m'exprimer ainsi. Rafał Majka, le Polonais, et Ilnur Zakarin, le Russe, sont deux excellents grimpeurs, et ce sont eux qui occupent la tête de course à quelques encablures du passage au col du Grand Colombier.
Merci Lionel Chamy d'être venu dans notre petit camion studio RMC. On se retrouve demain, évidemment, soit avec toi, soit avec David, pour d'autres débats. 48 km de l'arrivée, on fait un tout petit point, Fred, avant de partir en République tchèque pour le quart de finale de Coupe Davis.
48 km à parcourir, 2 km d'ascension dans ce Grand Colombier pour la tête de course, parce que la tête de course compte 8 minutes 30 d'avance sur le peloton maillot jaune. Un peloton maillot jaune qui, attention, n'est plus emmené par les Sky de Christopher Froome, mais bien par les Astana. Les Astana qui sont les équipiers de Nibali, qui est à la dérive à l'avant de la course. Il s'est brûlé les ailes, l'ancien vainqueur du Tour. Mais les Astana qui roulent pour Fabio Aru. Fabio Aru, excellent descendeur également, le grimpeur italien originaire de Sardaigne. C'est peut-être lui, à la place de Romain Bardet, ou associé à Romain Bardet, qui va mettre le feu à cette fin d'étape.
Très bien, le feu, il est également en République tchèque pour le quart de finale de Coupe Davis entre la France et la République tchèque. Nous sommes dans la quatrième manche. Eric Salio, Florent Serra et Joe Wilfried Tsonga mènent 2-7-1, on le rappelle.
Ouais, mais que c'est douloureux, hein, cette quatrième manche. Le français, on est à 4-3 pour Jiří Veselý, donc pour la République tchèque. Mais dans le jeu précédent, Joe s'est procuré 3 balles de break. Je ne peux pas dire que c'était des balles de match, mais c'était des balles tellement importantes. On a senti tout de suite la tension qui est montée de plusieurs crans. Mais à chaque fois, eh bien, Veselý a sauvé son territoire et est en mesure, pourquoi pas, d'inquiéter Joe sur sa mise en jeu. 40-30, attention, le français qui était à 40-0, qui se relâche quelque peu. Encore une balle pour faire 4 jeux partout, mais là Florent, on sent qu'on est vraiment dans le... C'est même plus que le money time. Il y a une tension qui est perceptible, c'est assez impressionnant ici à Trinec.
Oui, c'est vraiment vraiment très chaud, parce que avant de se procurer ces balles de break, c'était Joe qui avait dû également faire face à des balles de break que s'était procuré Jiří Veselý. Il avait bien tenu, notamment avec une bonne première balle pour sauver une balle de break, mais là c'est vrai qu'on sent que ça peut basculer dans cette quatrième manche d'un côté comme de l'autre.
Ouais, à l'instant, 40A, Veselý qui sort un magnifique passing de revers avec sa patte gauche. Donc ça fait 40A, 4-3 Veselý, 40A sur la mise en jeu de Tsonga qui est au service alors qu'il était à 40-0. Attention, moment délicat pour le Manso, alors qu'on joue depuis 3h10.
Merci messieurs, on revient vers vous dans un instant. Retour sur cette 15e étape du Tour de France à 47 km 600 de l'arrivée. Alors évidemment, on a un œil sur ce qui se passe à l'avant, mais derrière aussi, il se passe des choses, Fred, puisqu'en tête de peloton maillot jaune, les coéquipiers de Fabio Aru ont décidé de bouger le peloton.
Oui, Diego Rossa, l'une des perles du cyclisme transalpin, l'italien de l'équipe Astana, coéquipier de Fabio Aru, est en train de mener le peloton maillot jaune à une vitesse assez affolante, avec dans sa roue c'est Jakob Fuglsang, le coureur danois de l'équipe Astana. Vous voyez que Fabio Aru a sonné la charge et a réveillé ses coéquipiers de la formation Astana. Le peloton maillot jaune, donc le peloton de Christopher Froome, emmené par deux coureurs de l'équipe Astana, pour Fabio Aru, à 8 minutes de la tête de course. Sachez que Romain Bardet s'accroche dans la roue des deux coureurs Astana. On a toujours quatre coureurs de l'équipe Sky. Bauke Mollema est également là, Richie Porte et TJ Van Garderen, Nairo Quintana et Alejandro Valverde. Romain Bardet grimace et tente de s'accrocher et de suivre ce rythme assez assez effrénée menée par Diego Rosa sur commande de Fabio Aru. Sachez que Warren Barguil, le grimpeur de la formation Giant Alpecin, est en train de faire les frais de l'accélération de Diego Rosa, tandis qu'à l'avant, Julian Alaphilippe tente d'effectuer un rapproché sur les deux hommes de tête qui sont à l'approche du passage au col du Grand Colombier. Les deux hommes de tête qui sont le russe Zakharine et le polonais Majka. Julian Alaphilippe qui emmène dans sa roue un autre français, Alexis Villermo. C'est peut-être le réveil des tricolores aujourd'hui.
Hey, on l'espère, évidemment. Jérôme, il faut que les Français se bougent. Il ne faut pas laisser trop d'écart entre les deux hommes de tête et ce groupe. C'est maintenant ou jamais pour les Français, Alaphilippe en l'occurrence et Villermo.
Absolument, on a bien réagi du côté des deux Français parce qu'attention, Majka et Zakharine ne sont pas les derniers venus. Le russe et le polonais sont capables de faire un très grand numéro. Ils ont gagné des étapes sur les grands tours et notamment Majka a l'habitude de faire des raids en solitaire. Il est vainqueur à Cotterêts l'an dernier. Il avait fait ce même type d'étape. Il faut réagir très vite et Julian l'a bien compris puisqu'il est en train d'essayer de combler le retard qu'il a sur le sommet. Julian en puncher sur le sommet de col du Grand Colombier qui nous épargne puisque on l'avait un peu mis de côté pour cette troisième semaine en disant qu'il allait coincer un petit peu. Eh bien non, il est bel et bien là. Et Villermoz n'arrive pas à suivre Julian Alaphilippe. Est-ce que ça va être la journée de Julian? Réponse dans 45-46 km maintenant, mais c'est un beau mouvement de la part de Julian. Il fallait réagir très vite.
Il a mis un peu de temps à réagir, mais il est encore temps, Cyril, pour tenter de rattraper les deux hommes de tête pour Alaphilippe.
Oui, non, il est sorti au bon moment parce que ça plafonnait derrière. Il avait les jambes, donc il a pu le faire. Et je trouve assez bizarre d'ailleurs qu'il ait retrouvé des jambes comme ça. Rappelez-vous, contre la montre, il a fait un soleil, plus qu'un soleil, parce qu'il est allé percuter dans le contre-la-montre la muraille à plus d'un mètre cinquante de hauteur. Et les images sont absolument effrayantes. Donc il s'est à la limite pas fait mal du tout. Il a retrouvé toutes ses jambes. Et moi, je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau-là, car pour moi, c'est à ce niveau-là qu'il se situe dans la haute montagne. Et je pense qu'il est peut-être parti dans ce tour en n'ayant pas suffisamment confiance, ou on ne lui a pas fait suffisamment confiance pour lui permettre de faire le général, car c'est un coureur qui doit faire le général.
Et voilà, il y a Alaphilippe qui se retourne, qui est toujours en danseuse, follement acclamée par les spectateurs sur le bord des routes. On n'a pas beaucoup vibré avec les coureurs français. Souhaitons que Alaphilippe nous fasse vibrer aujourd'hui. Georges Quirino qui vient de passer au col du Grand Colombier. Georges.
On est dans les derniers hectomètres de cette ascension du Grand Colombier. Paysage somptueux ici à 1500 mètres d'altitude avec une énorme croix de fer au sommet et un public extrêmement nombreux. On est dans la file des coureurs qui ont été lâchés. Pierre Roland notamment qui a le maillot complètement ouvert, qui grimace. Thomas Voeckler également. Il y a un public extrêmement nombreux. C'est très difficile là de se faire un chemin au sommet. Et pour le passage du peloton tout à l'heure, il va falloir trouver le chemin pour arriver jusqu'au sommet de ce Grand Colombier où le public est extrêmement nombreux. Beaucoup de drapeaux français pour encourager les coureurs tricolores et notamment Julian Alaphilippe qui est devant.
Un coup d'œil sur le peloton maillot jaune, Fred, avec certains coureurs qui semblent un petit peu en difficulté. C'est le cas notamment du maillot blanc d'Adam Yates, leader du classement des jeunes.
Oui, Adam Yates en dernière position de ce groupe maillot jaune qui comprend une grosse quinzaine d'unités dans ce groupe. On aperçoit Romain Bardet dans la roue d'Alejandro Valverde. Bardet qui s'accroche, Roman Kreuziger et là, le tchèque de Tinkoff, Van Garderen et Richie Porte, Nairo Quintana bien calé dans la roue de Christopher Froome. Mais c'est vrai qu'on a vu un Adam Yates, deuxième du classement général, qui est peut-être en train de craquer dans cette ascension du Grand Colombier. Notez que Bauke Mollema semble très à l'aise, le Hollandais, dauphin de Christopher Froome au classement général. Fabio Aru est pas mal du tout, lui qui a fait rouler ses équipiers il y a quelques instants, Diego Rosa et Jakob Fuglsang. On est à 45 km de l'arrivée en ce qui concerne la tête de course, toujours occupée par le polonais Majka et le russe Zakharine. Alaphilippe est à 25 secondes.
Eh oui, il revient doucement. Il a trouvé Pantano pour l'accompagner, pour tenter de revenir sur les deux hommes de tête. 25 secondes d'écart entre les deux hommes de tête et le deuxième groupe composé de Alaphilippe et donc de Pantano. Le peloton maillot jaune va en finir dans quelques instants de ce col du Grand Colombier. On se retrouve dans une petite minute sur RMC pour la suite de l'intégral tour.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Les 41 derniers kilomètres de cette étape Rennes aujourd'hui, en ce beau dimanche ensoleillé sur les routes du Bugey, le département de l'Ain, entre Bourg-en-Bresse et Culoz. 41 kilomètres de l'arrivée, avec donc 4 hommes désormais en tête, Fred, puisque Alaphilippe et Pantano ont réussi à faire la jonction avec les deux hommes échappés depuis un petit moment.
41 kilomètres à parcourir, effectivement, c'est un quatuor de tête qui ouvre la route dans la descente du Grand Colombier en direction de Culoz. Une avance de 7 minutes 50 sur le peloton maillot jaune, des hommes intercalés bien sûr entre ce quatuor de tête et le groupe maillot jaune, puisqu'on vous rappelle que c'est un groupe de 30 unités qui a ouvert la route tout au long de cette journée au profil montagne russe. Julien Alaphilippe, le jeune coureur originaire de Saint-Amand-Montrond, installé à Montluçon et qui se découvre aujourd'hui, ces derniers jours même, lui qui n'a jamais participé à un grand tour de 3 semaines. Il en termine pour la première fois de sa vie avec 2 semaines consécutives de course cycliste, et aujourd'hui il s'était glissé dans la grande échappée. Il a laissé partir Machka et Zakarine et il vient de leur retomber sur le dos dans la descente du Grand Colombier, classé hors catégorie au punch. Julien Alaphilippe, déjà vainqueur de l'étape de montagne sur le Tour de Californie, qu'il a remporté le Tour de Californie, il se révèle à lui-même, Julien Alaphilippe, il se révèle au grand public, coureur de l'équipe Etix Quickstep. On en reparlera évidemment. 39 km de l'arrivée désormais, la descente est très technique, très rapide, 7 minutes 45 d'avance pour le quatuor de tête, avec effectivement un représentant français en tête de la course, enfin.
Et oui, enfin un coureur français à l'avant, et un coureur français qui peut ambitionner, Jérôme, aujourd'hui d'aller chercher la victoire d'étape. C'est un bon descendeur également, Julien, hein.
Oui, c'est un très bon descendeur, et la façon dont il a bouché le trou sur les deux coureurs qui étaient échappés tout à l'heure, Machka et Zakarine, c'est bon signe. Julien a la bonne jambe aujourd'hui, la montée des lacets du Grand Colombier lui convient parfaitement. C'est une montée de 6 km, pas trop longue, il n'y a pas d'altitude, on est à 1400 mètres, et surtout la pente est raide, et c'est des pentes qui correspondent à Julien. On peut avoir un espoir aujourd'hui pour Julien, en tout cas il nous fait preuve d'une très bonne condition aujourd'hui.
Fred, le peloton maillot jaune qui vient à son tour de franchir le col du Grand Colombier
avec 7 minutes 40 de retard sur la tête de course, le peloton maillot jaune qui n'a toujours pas perdu, on va dire, de gros poissons. Warren Barguil, lui, a sauté, le grimpeur breton de l'équipe Giant Alpecin, Warren Barguil, qui ce matin était 16e du général à 8 minutes 20 de Christopher Froome. On a tout le monde parmi le top 10 dans ce groupe maillot jaune, et noté que le maillot jaune compte toujours 3 équipiers, Paul Sniewe et Geraint Thomas.
Regardez à l'arrière, on a 2 coureurs, on a Alexis Vuillermoz et on a Sébastien Rachenbach à l'image, et je crois que Cyril pourra pas me contredire. Sébastien Rachenbach pas très à l'aise en descente, il descend les mains sur les cocottes, et ça c'est une mauvaise chose, parce que Sébastien, quand il est très à l'aise dans les montées, perd beaucoup de temps dans les descentes. Alexis Vuillermoz ne pourra absolument pas compter sur Sébastien pour boucher l'écart dans la descente.
Ces deux hommes qui naviguent à 20 secondes du quatuor de tête. On n'est pas à l'arrière de la course, on est sur des hommes intercalés entre la tête de course et le peloton maillot.
Cyril, ton avis là-dessus ? Bon, pas d'avis.
Non, effectivement, c'est pas une manière de descendre. Sébastien Reichenbach, beaucoup plus à l'aise en ascension qu'en descente. Une descente, ça se négocie, messieurs, les mains en bas du guidon, parfaitement posées, en appui, le centre de gravité le plus bas possible pour négocier les virages au mieux. Qu'est-ce qui lui prend à Sébastien Reichenbach, là, le leader de substitution de l'équipe FDJ, toi qui le connais bien,
Jérôme. Il est pas à l'aise, Sébastien, dans les descentes. C'est un très bon escaladeur.
Chez Yam Cycling.
Très bon escaladeur. Il connaît cette descente. Il sait qu'elle est technique. Il est crispé. Il est sur les freins et il n'est pas relâché. Quand on est relâché, on met les mains en bas. Quand on est crispé, on met les mains sur les cocottes. Mais c'est encore plus dangereux, et ça c'est un conseil pour tout le monde qui pratique le vélo en montagne et surtout dans les descentes. Les mains sur les cocottes, au moindre obstacle, au moindre trou dans la route, la main rip, et là c'est, on va à la chute sans problème.
Jérôme, un mot sur le peloton maillot jaune. On l'a vu, ils ont tous réussi à franchir le col en compagnie de Chris Froome. Est-ce que tu en as senti quand même quelques-uns en difficulté qui pourraient péter dans la dernière ascension, parce qu'on rappelle que là ils descendent et ensuite ils vont remonter une partie de ce col du Grand Colombier.
On a vu Luis Menchès un peu, avec Adam Yates un peu en difficulté,
le jeune sud-africain
légèrement en difficulté, mais Adam Yates nous a donné déjà par le passé ces quelques signes avant-coureurs, et puis finalement il se remet bien, il finit très fort les étapes. Non, simplement, je ne comprends pas pourquoi l'équipe Astana a accéléré si fort. Tout simplement, Haroun n'a pas tenté quelque chose. C'est assez étonnant. On a grillé Fuglsang qui s'est écarté. Rosa a fait un très gros travail. Il a quelque part aidé la Sky, puisque la Sky est restée sagement dans la roue. Je n'explique pas la tactique d'Astana.
Et si c'était dans la descente que Fabio Aru voulait s'extirper du groupe maillot jaune, c'est peut-être pour cela qu'il a fait rouler ses hommes pour se positionner au mieux, pour user les organismes des membres du top 10. Fabio Aru, qui on le rappelle, était 10e du classement général ce matin à 5 minutes 16 de Christopher Froome. Fabio Aru qui a remporté une étape sur le dernier critérium du Dauphiné grâce notamment à ses talents de descendeur à la manière de Vincenzo Nibali, son leader chez Astana. On va pouvoir vérifier ça dans les kilomètres qui viennent. On est à 35 km de l'arrivée en ce qui concerne la tête de course, et on vous rappelle qu'au pied de cette descente du Grand Colombier, on passe sur la ligne d'arrivée ici à Culoz, et on va monter les lacets du Grand Colombier classé en première catégorie, très raide, montée très étroite.
Julien Alaphilippe qui est en train de s'échapper dans la descente, Fred, là, qui tente de faire le trou. Est-ce que c'est le moment de le faire, ou alors il faut quand même ensuite remonter au Grand Colombier, hein.
Et Julien Alaphilippe qui, lui, contrairement à Reichenbach, est un excellent descendeur. Il prend tous les risques, mais il le fait de manière presque naturelle. Il a les trajectoires pour lui, il a l'audace pour lui, et il est en train de faire craquer dans la descente le plus grand gabarit des quatre hommes de tête, à savoir le russe Innur Zakharin de l'équipe Katusha, qui lui peine avec son centre de gravité très très haut. Il est en train de décrocher, Zakharin.
C'est plutôt de bon augure pour tout à l'heure. Si Julien Alaphilippe réussit à rester avec ses trois compagnons d'échappée, il pourra peut-être tenter de les décrocher dans la dernière descente du jour. Mais là, il faudra d'abord remonter une partie du Grand Colombier. On repart à Třinec en République tchèque, parce qu'on approche de la fin du match entre Tsonga et Vezeli. Eric Salio, Florent Serra, et pour l'instant, ça va plutôt pas mal pour Joe.
Ouais, la grande nouvelle, Christophe, c'est que Joe Wilfried Tsonga va servir pour le gain du match et aussi pour le gain de la qualification pour les demi-finales. Il vient de breaker Yiri Vezeli sur un fantastique passing shot de coup droit qui a fait lever tout le clan France. Donc 6-5, Joe qui se dirige tout doucement vers la ligne de fond de cours. Il demande les balles, peut-être la délivrance dans quelques minutes pour les Bleus.
Très bien, on revient vers vous dans un instant, messieurs. Mais retour ici sur cette 15e étape du Tour de France. 34 km 200 de l'arrivée. Et peut-être enfin, Fred, un Français vainqueur tout à l'heure ici à Culoz. On l'espère évidemment. Mais Julien Alaphilippe nous fait grand plaisir aujourd'hui sur les routes du Bugey.
Julien Alaphilippe, déjà vainqueur d'une étape sur le Tour de l'Ain. On s'en souvient, c'était il y a quelques années. Était-ce, Jérôme, l'étape du Grand Colombier?
Non, c'était pas l'étape du Grand Colombier. C'était une étape qui se terminait à Bourg-en-Bresse, me semble-t-il, mais c'était une étape de moyenne montagne. Déjà, le Tour de l'Ain est une épreuve très difficile où seuls les grands champions s'imposent.
évidemment. Cyril, l'impression que te laisse Julien Alaphilippe aujourd'hui, on sent qu'il a vraiment la bonne jambe, comme dirait Jérôme.
Oui, il a la bonne jambe, il fait la descente à fond. Je suis pas certain que ce soit très utile, car il va prendre très peu de temps, et sur la partie plane entre les deux cols, il n'a pas intérêt à être seul. Qu'il fasse descendre vite le groupe, oui, mais en étant quand même légèrement dedans, mais surtout en lâchant personne, parce qu'il va avoir besoin d'eux pour aller jusqu'au pied de la dernière ascension.
Ouais, c'est peut-être une répétition générale, hein. On rappelle qu'ils vont faire la descente deux fois. En tous les cas, le bas de la descente à deux reprises.
La deuxième moitié de la descente.
Exactement, la deuxième moitié.
Le plus important, c'est de garder le maximum de cartouches pour la dernière ascension. Et là, en attaquant dans la descente, il laisse du jus, il laisse de l'influx nerveux. Il faut être très attentif, très concentré. Or, ça fatigue aussi. Alors que là, compte tenu de ses qualités de descendeur, en descendant à la même vitesse que les autres, il était nettement sur la réserve. C'est une petite faute de nervosité, alors qu'il n'a plus rien à craindre de ce qu'il y a derrière. De ce qu'il y a derrière ne reviendra plus pour la gagne.
Très bien, nous repartons à Třinec pour une balle de match pour Joe Wilfried Tsonga, pour une balle de qualification pour les demi-finales de la Coupe Davis. Eric Salio, Florent Serra.
Et il est costaud, Joe, il est costaud. Il vient de lâcher trois premières balles. Ça fait 40-0, 6-5, 40-0, 3 balles de match donc pour l'équipe de France, 3 balles de qualif pour les demi-finales au mois de septembre. Bonne première avec un coup de remanant de Joe Tsonga. Vezeli qui défend, mais Joe qui est très agressif, qui était en train de prendre l'ascendant. Il a un coup droit qui est presque pénalty, il y va. Le passing est out. Voilà, Joe qualifie les Bleus pour les demi-finales. Noah se jette vers tout le staff et Joe attend. Il se régale, il savoure le moment. Ça a été un sacré combat mental. 3h28, victoire de Joe Tsonga, 4-6.
6, 7-6, 6-4, 7-5. On connaîtra ce soir l'adversaire des Bleus. Ce sera soit aux États-Unis, soit en Croatie. Si jamais il y a une finale, info importante, elle aura lieu en France.
Florent, mission accomplie donc pour l'équipe de France. Joe, aujourd'hui, même s'il a été malmené en début de match, a réussi à renverser la situation.
Oui, malmené en début de match où Joe, bien sûr, était un petit peu tendu. Ses coups partaient pas particulièrement bien, mais il a bien rectifié le tir. Ensuite, il a été très peu inquiété sur sa mise en jeu et ça lui a permis tout le temps d'insister, de mettre la pression sur Jiří Vizili qui a craqué dans le tie-break de la seconde manche. Et c'était très important de revenir à un set partout. Et ensuite, Joe, on a senti qu'il s'est libéré progressivement. Il est devenu plus incisif sur ses deuxièmes coups de raquette. Il a commencé à bouger Jiří Vizili, à lui faire tirer des passings et ça a fini par passer. Joe qui a été également beaucoup plus incisif au service et c'est top de pouvoir remporter ce match en 4-7.
Merci beaucoup messieurs, on revient sur la route du tour car une mauvaise nouvelle vient de tomber il y a quelques instants, Fred.
Oui, pas qu'une mauvaise nouvelle d'ailleurs, puisque Julien Alaphilippe qui avait fait la différence dans la descente du Grand Colombier à 33 km de l'arrivée est annoncé arrêté sur la droite de la route. Est-ce qu'il a chuté? Est-ce qu'il a été victime d'un incident mécanique? En tout cas, il prenait tous les risques, il a devancé et largué dans la descente des coureurs comme Machka, comme Pantano, comme Zakarine qui était avec lui en tête dans cette descente de ce Grand Colombier classé hors catégorie. Julien Alaphilippe qui est effectivement tombé. Alaphilippe qui a pris tous les risques. Jérôme, on a là un chien fou qui est en train d'apprendre le métier de coureur cycliste.
Oui, c'est pas possible ça.
Julien Alaphilippe, 24 ans.
Ouais, c'est pas possible. Il a qu'à assurer le calme, facteur indispensable au succès. Il n'y a pas d'autres règles. Qu'est-ce qu'il va attaquer dans la descente pour prendre 100 mètres? Il s'est enflammé, tout simplement. Il faut rester calme. Il est avec des champions avec lui, Machka.
Restons mesurés, attendons quand même des nouvelles de Julien parce que s'il a chuté, ça veut dire qu'il a chuté à très haute vitesse.
Oui, non, mais ça veut dire.
Voilà, c'est peut-être
non, mais
une
Jérôme,
erreur.
Ça veut rien dire sur le fait d'avoir pris des risques et de s'être enflammé.
Bien sûr,
j'espère
bien sûr,
qu'il a rien.
Bon, j'espère qu'il n'est pas blessé surtout, quoi.
C'est pas parce qu'il a chuté qu'il n'a pas fait de conneries avant, quoi.
Ouais. Non, c'est sûr.
Ah,
c'est
là,
sûr.
Là, les illusions qui s'envolent une nouvelle fois ici sur la route de ce Tour de France en direction de Culos. Julien Alaphilippe, dont on espérait qu'il allait pouvoir enfin décrocher une première victoire d'étape pour les camps français. Malheureusement victime d'une chute et on ne sait pas la gravité de cette chute. On n'a pas vu d'image dans notre camion RMC nous donnant l'état de ce jeune coureur français de la formation Etix Quickstep. En tous les cas, pour la victoire d'étape, eh bien Fred, c'est râpé pour Alaphilippe.
Il est sur son vélo, effectivement, Julien Alaphilippe, qui revient dans le coffre de la voiture de l'équipe Etix Quickstep. Évidemment, des coureurs lui sont passés devant au pied de cette descente du Grand Colombier. On rappelle que c'est Machka, le Polonais, et Pantano, le Colombien, qui ouvre la route désormais. Derrière, on a un groupe de contre-attaquants avec Alexis Villermoz, avec Serge Powels, le Belge, avec Reichenbach, le Suisse, avec Zakarine, le Russe, et Julien Alaphilippe, qui retombe sur le paletot de coureurs comme Pozzo Vivo, Navarro.
Il repart Navarro, de plus belle. Hein. Ouais, mais c'est n'importe quoi.
Et Alaphilippe est en train de faire un numéro. Il rentre sur des coureurs intercalés et il les dépose illico sur la gauche de la roue. On est sur des portions planes en direction de Culoz. On vous rappelle que
La moto RMC, voilà. Georges, on y va.
Oui, on le voit, Julien Alaphilippe. On est revenu derrière ce groupe. Il a pris une dizaine de mètres d'avance. Effectivement, il a juste parlé quelques minutes avec David Ebramati, son directeur sportif. Et là, il est reparti à l'offensive, les mains en bas du guidon, avec quelques mètres d'avance sur le groupe où se trouve notamment Dani Navarro, où se trouve Pierre Roland, notamment pour Julien Alaphilippe. Là, dans une longue ligne droite, désormais, il tente de prendre de l'avance, mais c'est un peu compliqué. Il regarde derrière lui. Voilà, il voit qu'il n'a pas réussi à faire un gros écart, le Français qui passe sous une banderole sans 600 km, mais en tous les cas Julien Alaphilippe qui voit quelques coureurs peut-être pour essayer de rentrer avec lui. Il y a un coureur de l'équipe Direct Energy notamment pour essayer de revenir peut-être sur la tête de course. Ça semble bien compliqué maintenant. La tête de course n'est pas en vision, en tout cas n'est pas visible pour les poursuivants. Voilà le groupe qui se reforme derrière Alaphilippe maintenant.
Et oui, évidemment, Alaphilippe qui a perdu beaucoup de temps. On ne sait pas encore si c'est une chute ou un incident mécanique. Il était arrêté sur le bord de la route en train de réparer sa roue arrière, parce que si ça avait été une chute il aurait sans doute eu plus de dégâts. Ouais, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de dégâts.
Il était arrêté dans une partie en ligne droite, donc C'est un incident mécanique, semble-t-il. On le voit pas très bien vu d'hélicoptère, mais il n'a pas l'air d'avoir de grosses blessures. En tout cas, pas de cuissard arraché, pas de maillot arraché. Peut-être que simplement un incident mécanique, mais qui va lui coûter très cher, puisque là, il est relégué dans le groupe de contre avec le groupe avec les coureurs qui ont sauté, dans le Grand Colombier.
Nous sommes à 25 km de l'arrivée avant de s'arrêter une dernière fois pour récupérer quelques bidons. Fred, un point sur la course.
Alors, on est sur les portions planes, les rares portions planes de cette 15e étape, arrivée à Culoz et dans un instant, passage sur la ligne d'arrivée de la tête de course, un duo de coureurs à 27 km de l'arrivée, le Polonais Rafał Majka et le Colombien Jarlinson Pantano. Derrière, on a un groupe de 4 contre-attaquants avec un Français, Alexis Villermoz, le Belge Powels, le Suisse Reichenbach et le Russe Zakharine, et Julien Alaphilippe est à 1,28 dans un groupe
énervé, hein.
Dans un groupe où l'on trouve Pierre Roland, Steve Morabito, on a également Dani Navarro ou Uzarski, des coureurs qui sont battus à la pédale dans l'ascension du Grand Colombier. Un Julien Alaphilippe, jeune chien fou et complètement énervé, qui peste après sa voiture de directeur sportif. C'est sur l'adrénaline qu'il est en train de terminer. Il est revenu au punch dans l'ascension du Grand Colombier, Julien Alaphilippe. Jérôme. Et il va tenter de revenir sur la tête de
Jérôme,
course.
Jérôme, tu as des explications?
Les gestes que font Julien Alaphilippe, semble-t-il que son dérailleur arrière était déréglé et que la chaîne ne restait pas en ligne. Elle passait du 11 dents au 12 dents, du 11 dents au 12 dents, ce qui le gênait dans sa progression. C'est pour ça qu'il s'est arrêté. Problème de chaîne probablement pour Julien Alaphilippe.
Bon, on va voir s'il peut espérer encore quelque chose. Ce sera compliqué, hein. 1 minute 30 d'écart au dernier pointage entre les deux hommes de tête et le groupe Alaphilippe. Mais il s'est passé quelque chose. On aura plus amples explications tout à l'heure après l'arrivée. 25 km justement de la ligne d'arrivée à Culoz. On revient dans un instant.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
16h46 sur RMC, nous sommes en plein cœur de cette 15e étape du Tour de France. Il reste 24 km à parcourir et les hommes de tête qui vont franchir la ligne d'arrivée dans un instant, Fred. Oui, mais il y aura encore un petit passage, 24 km encore à parcourir, mais aujourd'hui on court en circuit dans cette 15e étape.
Et c'est rarissime, un passage sur la ligne d'arrivée et un tour de circuit final, 24 km effectivement à parcourir, dont 8 km d'ascension très raide dans les lacets du Grand Colombier. On ne monte pas bien sûr jusqu'en haut de ce sommet jurassien, on monte jusqu'à 830 mètres d'altitude, mais que c'est dur, que c'est étroit et la descente est très technique, la descente où Julien Alaphilippe tout à l'heure a pris le large. Julien Alaphilippe qui a dû se garer sur la droite de la route, victime d'un incident mécanique apparemment. Deux hommes en tête qui viennent de franchir la ligne d'arrivée ici à Culoz, le Polonais Rafał Majka et le Colombien Jarlinson Pantano. Derrière, on a un groupe de contre-attaquants qui approche de la ligne d'arrivée, le Belge Serge Powels, le Suisse Reichenbach, le Russe Ilnur Zakharine et un Français, Alexis Villermoz, le Jurassien de l'équipe AG2R La Mondiale. Et à 1 minute 30 de la tête de course, on a le groupe avec Julien Alaphilippe, également Pierre Roland, également Dani Navarro. Les contre-attaquants avec Villermoz passent à l'instant avec 53 secondes de retard sur le duo tête Majka Pantano. Le peloton maillot jaune est à 7 minutes 30.
Cyril, est-ce que c'est râpé pour la victoire d'étape pour Alaphilippe ou encore pour Villermoz, nos deux Français qui sont peut-être
faut que les deux autres tombent devant, quoi.
Ouais.
Attaque de Julien Alaphilippe dans le deuxième groupe de contre-attaque. Il va passer sous tes yeux, Cyril, sur la ligne d'arrivée. Julien Alaphilippe, jeune chien fou de 24 ans qui ne sent pas ses pédales aujourd'hui.
Oui, mais bon, il va se calmer tout à l'heure quand ça va monter, parce que là il est avec un groupe, il va avoir un col à monter derrière et il rattaque sur le plat à 1,35.
Ouais. Compliqué.
Non, c'est
râpé.
Ben oui, mais c'est n'importe quoi.
C'est surtout n'importe quoi, ouais.
Non, je suis désolé de le dire, je vais me faire flinguer par ses supporters. Mais moi, j'ai un coureur comme ça, je monte à la hauteur et je te lui pousse une soufflante, je te dis pas, quoi.
Bon, la moto RMC, Georges Quirino, je sais pas où il se trouve, Georges, avec les hommes de tête ou avec les hommes en contre-attaque. Georges, dis-nous tout.
Derrière les coureurs en contre-attaque, on a passé la ligne d'arrivée une première fois à Culoz et on voit effectivement Julien Alaphilippe qui regarde derrière lui. Il est parti avec Durasek, il me semble, de l'équipe Bora Argonne. Ils ont pris une centaine de mètres d'avance sur leurs anciens compagnons d'échappée. Alaphilippe qui regarde derrière lui si ils ont fait un écart suffisamment important. Allez, ils ont une centaine de mètres d'avance, même pas pour ce groupe, sur le deuxième groupe. Donc où ils se trouvent notamment Pierre Roland et Alexis Villarmoz. On a essayé de demander, Christophe, à David Ebramati, ouais, le directeur sportif de l'équipe
Etix Quick Step, qu'il y a trop de tension, là,
qu'est-ce qu'il s'était passé. Il nous a envoyé, voilà, il nous a renvoyé vers les barrières. L'Italien qui a le regard noir, la mâchoire serrée, qui parle souvent à Julien Lafilippe sur la radio, mais qui pour l'instant, en tous les cas, n'a pas voulu nous expliquer ce qui s'était passé exactement dans cette descente du Grand Colombier il y a quelques instants.
Voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Jérôme, tu as vu un geste quand même d'Alaphilippe expliquant que son dérailleur semblait lui avoir causé des problèmes.
Il y a deux explications.
1 minute 30 pour réparer cet incident, c'est beaucoup.
Et la voiture était derrière le groupe où il se trouve, puisqu'il n'avait pas assez creusé d'écart. Les informations que j'ai, c'est que son geste apparemment expliquerait que sa chaîne ne restait pas sur le 11 dents, elle allait du 11 au 12, et surtout il parlait au mécanicien sur la deuxième fenêtre. Donc le mécanicien se trouve à l'arrière des véhicules, donc c'est ce qui explique sa colère. Il parlait au mécanicien, il avait l'air très énervé, on le voit, on a vu passer sur la ligne derrière nous, il n'est pas abîmé, donc c'est pas une chute, c'est vraiment un problème mécanique, et c'est pour ça que Julien est aussi nerveux en ce moment.
Très bien, il est 16h50, on va parier tout de suite sur la victoire d'étape dans cette 15e étape du Tour de France.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Olympique, Poker.
Benjamin Ramagé nous a rejoint. Salut Benji.
Salut messieurs.
On rappelle les pronostics de la Dream Team hier soir.
Et on s'est un petit peu réveillé, Christophe, enfin dans ce Tour de France 2016, puisqu'avec Bourguier, on avait donné Rafał Majka, donc on est encore en course. Et surtout, on avait tous donné, à part Cyril qui est un petit peu à la rue sur ce Tour de France, des coureurs qui ont fait partie de l'échappée, puisque tu avais donné Nibali et Jérôme avait donné Villarmoz. Donc on s'est un petit peu réveillé, Christophe, ça va de mieux en mieux.
Très bien messieurs, est-ce que vous avez toujours les mêmes pronostics? J'imagine que pour Bourgui et pour Benji, bah oui, Majka, Jérôme.
Toujours, Alexis Villarmoz est dans la contre-attaque, à moins de 55 secondes, tout est encore possible. Les lacets du Grand Colombier nous diront si je me suis trompé ou pas.
Fred, quel est selon toi celui qui va remporter l'étape?
Mon cœur penche pour Alexis Villarmoz, évidemment. Villarmoz qui ne semble pas effectivement être au même niveau que Rafał Majka. Majka est un grimpeur au long cours, on va dire, lui qui a déjà remporté des étapes, notamment l'autre année à Cotterêts. C'était exactement au terme d'un raid de ce type. Mais Alexis Villarmoz là est presque dans son Jura. On est dans le département de l'Ain, massif du Bugey, frontalier du Jura. Allez, une victoire française, ouais, enfin, pour débloquer le compteur aujourd'hui.
Cyril, je te donne une deuxième chance. Qui vois-tu l'emporter dans quelques minutes ici à Culose?
Eh bien, moi je verrais bien le Colombien Pantano, dans la mesure où on a pu voir qu'il descendait un tout petit peu mieux que Majka, et je suis pas certain que Majka puisse le déposer dans la montée, ou tout du moins pas suffisamment.
Jarlinson Pantano qui tout à l'heure lui aussi pestait sur sa voiture de directeur sportif, elle avait du mal à venir, et quand on peste sur sa voiture, ça veut dire qu'on vise vraiment la gagne, ouais, et que la victoire est ciblée.
Merci Benji, on te retrouve tout à l'heure, 19h40, pour faire le point des paris RMC. 21 km 300 de l'arrivée, on revient dans un instant.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Alors que les derniers écarts nous indiquent que le groupe Alaphilippe est revenu à 50 secondes de la tête de course, Fred.
Oui, Julien Alaphilippe qui est sorti du deuxième groupe de contre-attaque. Il est en compagnie du Polonais Uzarski. Julien Alaphilippe qui, on vous le rappelle, était en tête tout à l'heure dans la descente du Grand Colombier, qui s'est garé sur la droite de la route et qui doit calmer, ouais, ses nerfs. Il a un peu perdu son sang-froid, mais il revient dans le jeu. Julien Alaphilippe, il reste 21 km à parcourir.
Allez, on va justement avoir une impression visuelle avec la moto RMC, Georges Quirino qui se trouve au contact de Julien Alaphilippe.
Oui, Julien Alaphilippe que l'on a doublé il y a quelques instants, Christophe, et on peut a priori sur ce qu'on a vu de nos yeux vous dire qu'il n'est pas tombé. Il n'y a pas de stigmate d'une chute effectivement pour Julien Alaphilippe, qui avec le Polonais Uzarski, ils sont en train de gravir, c'est lacet du Grand Colombier à toute allure, en train de réduire l'écart, me semble-t-il, sur le groupe qui est devant nous, le groupe des premiers poursuivants, avec Alexis Villarmoz, avec Ilnur Zakarin notamment, avec le Belge Powels. Ils sont en train de revenir pour l'instant, ce groupe Alaphilippe qui est en train de produire un gros effort pour essayer de rentrer sur les différents groupes.
Alors que devant les deux hommes de tête, Machka envoie du lourd là, le champion de Pologne de la formation Tinkoff.
Le forcing de l'ancien meilleur grimpeur du Tour qui endossera ce soir le maillot à poids de meilleur grimpeur, le Polonais de l'équipe Tinkoff qui a toujours sur son porte-bagages Jarlinson Pantano, le grimpeur colombien de la formation Yam Cycling à 20 km 500 de l'arrivée. Rafał Majka est en train de mettre un coup de mitraillette dans les lacets du grand colombier. Toujours une quarantaine de secondes d'avance sur un groupe de contre-attaquants. On trouve le français Alexis Villermo, 50 secondes d'avance sur Julian Alaphilippe qui accompagnait les deux hommes de tête tout à l'heure et qui avait fait le break dans la descente du grand colombier avant de s'arrêter sur la droite de la route. Rafał Majka qui n'arrive pas à décrocher en tête de la course le colombien Pantano.
Et qui en remet une petite là, mais c'est vrai que Pantano s'accroche à la roue de Majka. Les deux hommes qui sont bien partis quand même pour aller chercher cette victoire d'étape, Jérôme.
Oui, oui, à ce petit jeu-là, si Majka ne lâche pas Pantano dans la montée, Pantano est un très bon descendeur, mais surtout a une très bonne pointe de vitesse et le Polonais le sait. C'est pour ça qu'il essaye de mettre en échec le Colombien. Il accélère de nouveau. Il va falloir lâcher Pantano pour espérer la victoire pour Majka parce que le Colombien a l'air très costaud et surtout très rapide au sprint.
Alors que le groupe maillot jaune va dans quelques instants maintenant entamer la dernière ascension du jour, les lacets du Grand Colombier. C'est un petit peu moins long que le Grand Colombier lui-même, le classé hors catégorie qu'ils ont déjà franchi il y a quelques minutes. Mais là, c'est la dernière occasion, Fred, d'essayer de faire quelque chose pour tous les adversaires de Chris Froome.
Oui, avec des pentes qui avoisinent les 14% dans certains passages, une moyenne à 7%, 8% sur les 8 km d'ascension. Mais si l'on considère que les derniers 1500 mètres sont tout plats dans ces lacets du Grand Colombier, eh bien la moyenne sur les premiers kilomètres d'ascension est vraiment, vraiment très élevée. C'est une route étroite, le goudron est bientôt fondu, la descente très technique, il y a de quoi faire un break dans le groupe maillot jaune.
Justement, on va parler de la descente puisque Dédé nous a rejoint, notre ami André Mancala de l'Assemblée des départements. Dédé, c'est vrai qu'il fait très chaud aujourd'hui, oui. Le goudron a tendance à fondre quelque peu. Les coureurs et les suiveurs sont déjà passés une première fois dans cette descente, ça risque d'abîmer encore un peu plus la route.
Oui, absolument, puisque déjà le premier passage, la route avait déjà souffert. 2 tonnes d'eau ont été déversées sur la route pour la refroidir, mais n'oublions pas que les coureurs sont passés, c'est pas ça le plus important, ce sont les véhicules voitures. Qui suivent les voitures, qui ont parfois mordu sur les accotements et ramené quelques gravillons, sans compter la route qui va continuer à être en surchauffe. Et là, on ne peut évidemment plus intervenir entre le premier et le deuxième passage, il faudra faire avec. Et évidemment, les plaques de reçoivage pourraient être un peu plus importantes que celles qu'on a connues lors du premier passage.
Merci monsieur Dédé, vous êtes parfait, vous avez été parfait, concis, bref, impeccable. 20 km de l'arrivée, Fred, on rappelle la situation de course, situation complète alors que tout le monde est dans l'ascension des lacets du Grand Colombier.
Avec Rafał Majka qui est en train de faire la différence en tête de la course, moins de 20 km à parcourir, la tête de course dans la partie médiane des lacets du Grand Colombier. Rafał Majka qui est en train de déposer Jarlinson Pantano, le Polonais de l'équipe Tinkoff, qui compte une trentaine de secondes d'avance, un peu plus même, sur un groupe de contre-attaquants où l'on trouve Alexis Villermoz, Ilnur Zakarin, le Suisse Reichenbach, Rafał Majka qui est en train d'aller chercher le maillot de meilleur grimpeur et une nouvelle victoire d'étape peut-être. Pantano s'accroche.
Il s'accroche.
Il amortit le choc. Ouais. Le groupe Alaphilippe avec Pierre Roland notamment est à 1 minute derrière la tête de course. Le peloton toujours à 6 minutes 30. 50 secondes de retard maintenant le groupe de Julian Alaphilippe avec Ouzarski et Pierre Roland.
Allez, 50 secondes derrière, la moto RMC se trouve justement en compagnie de ces hommes. 50 secondes, ça va être compliqué. Est-ce que Alaphilippe fait bonne impression, Georges?
Non, là, ça va être trop compliqué pour Julian Alaphilippe qu'on a vu dans la roue de Ouzarski. A priori, il n'y aura pas de miracle. Hein. On l'a vu dans l'attitude du coureur de l'équipe Etix Quickstep, un peu qui s'est résolu en tous les cas, qui s'est rendu compte que ce serait difficile pour lui dans cette ascension. On est derrière le premier groupe de poursuivants maintenant avec Zakarin, le Russe qui emmène dans sa roue Alexis Villermoz, Serge Powels et également le Suisse Reichenbach de l'équipe FDJ, ce groupe qui essaie de rentrer sur la tête de course, qu'il n'arrive pas à voir pour l'instant. Maïka et Pantano qui ne sont pas visibles pour le premier groupe de poursuivants dans cette ascension. Jérôme le disait tout à l'heure, c'est une grosse chaleur, 30 degrés, il fait chaud dans cette ascension des Lacets du Grand Colombier.
Voilà, 38 secondes d'écart entre les deux hommes de tête et le premier groupe de contre-attaque et 49 secondes sur le groupe à la Philippe. On se quitte quelques instants pour vivre intensément les 19 derniers kilomètres de cette étape. Derrière, le peloton maillot jaune toujours emmené par les coéquipiers de Nibali et de Haru, même si Nibali a pété il y a quelques instants. À tout de suite.
Le point sur la course avec Seiko X-Changer, votre équipement optique sur mesure pour le sport.
RMC Intégral Tour.